VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du vendredi 26 avril 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Soudan, une foule immense s'est rassemblée hier à Khartoum à l'appel des leaders de la contestation pour réclamer encore un pouvoir civil.
En Algérie, manifestation pour le 10e vendredi consécutif. L'objectif, le départ de l'ensemble des figures de l'appareil hérité du président déchu Abdelaziz Bouteflika.
En Guinée, le président Alpha Condé laisse une nouvelle fois planer le doute sur son éventuelle candidature à un troisième mandat en 2020.
Le leader nord-coréen Kim Jong-un, en visite en Russie, accuse les États-Unis d'avoir été de mauvaise foi lors de son sommet à Hanoï avec le président Donald Trump.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Soudan, une foule immense a déferlé jeudi à Khartoum à l'appel des leaders de la contestation dans une marche du million pour que l'armée cède le pouvoir à une autorité civile. Un conseil militaire de transition dirige le Soudan depuis le renversement du président Omar al-Béchir par l'armée le 11 avril après des mois de manifestations populaires. Le point avec Jean-Roger Bion.
Oui, les contestataires persistent et signent, œil pour œil, dent pour dent, nous n'accepterons pas les compensations proposées par les militaires jusqu'à présent, chantent les manifestants qui réclament la condamnation des responsables du régime d'Omar al-Béchir durant ses 30 ans au pouvoir. La veille, trois généraux contestés sur les 10 membres du conseil militaire avaient démissionné face à une contestation qui va crescendo. Le conseil militaire a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec l'ALC sur la plupart des exigences présentées par cette coalition sans donner plus de détails ni de calendrier pour le transfert du pouvoir à une autorité civile. Dans un communiqué sur Twitter, l'Association des professionnels soudanais, la SPA, fer de lance de la contestation, qui fait partie de l'ALC, a vu dans la réunion de mercredi une étape vers un renforcement de la confiance entre les deux parties et annoncé la mise en place d'un comité conjoint pour discuter des problèmes en suspens. L'un des leaders de la contestation, Sidik Farouk, avait brandi mercredi la menace d'une grève générale à travers le pays si le conseil militaire n'accédait pas aux revendications des manifestants. Le mouvement a reçu cette semaine le soutien de Washington qui a dit appuyer la demande légitime des Soudanais d'un gouvernement dirigé par des civils.
En Algérie, le mouvement de contestation teste ce vendredi sa capacité à rester mobilisé lors du 10e vendredi consécutif de manifestations à travers le pays, et ce sur fond de limogeage de symboles du régime du président déchu Abdelaziz Bouteflika et de spectaculaires incarcérations dans des affaires de corruption présumées. Les contestataires veulent le départ de l'ensemble des figures de l'appareil hérité de Bouteflika et l'organisation d'une transition hors du cadre institutionnel qu'il a légué.
La Libye a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer une équipe d'inspecteurs pour enquêter sur les violences contre des civils à Tripoli. La lettre de l'ambassadeur libyen à l'ONU est datée du 18 avril, mais n'a été publiée qu'hier. Selon le gouvernement d'Union nationale, les forces du maréchal Khalifa Haftar ont tué des civils, détruit des propriétés, recruté des enfants soldats et utilisé de l'artillerie lourde.
Le Conseil, très divisé, n'a pas réussi à adopter la résolution proposée par le Royaume-Uni demandant un cessez-le-feu. Les États-Unis ont demandé plus de temps pour étudier la situation. La Russie s'est opposée à ce texte qui critique ouvertement le maréchal Haftar. Ce dernier, dit-on, a reçu un récent appel du président Donald Trump comme un encouragement. Le comité international de la Croix-Rouge s'est alarmé hier de la dégradation de la situation humanitaire à Tripoli.
Plus de 30 000 personnes ont quitté leur maison et ont trouvé refuge chez des proches ou dans des bâtiments publics. D'après Younes Raoui, directeur du CICR à Tripoli, des quartiers densément peuplés deviennent de plus en plus des champs de bataille. Selon l'OMS, depuis le 4 avril, les combats ont fait au moins 278 morts et plus de 1300 blessés.
Le président de la Guinée, Alpha Condé, en visite officielle à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a une nouvelle fois laissé planer le doute sur une modification de la Constitution qui lui permettrait de briguer un troisième mandat en 2020. Il y a un débat en Guinée, moi j'observe. Ce qui est évident, c'est que le peuple guinéen est un peuple souverain et qu'on ne peut pas empêcher le peuple de s'exprimer s'il le souhaite, a-t-il répondu à la presse qu'il a interrogée à ce sujet. Nous reviendrons sur ce débat en seconde partie de cette édition avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités ont annoncé hier l'arrestation de 11 responsables présumés du meurtre d'un médecin camerounais dépêché sur place par l'OMS pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Le point avec Ekia Badou.
Le colonel Kumbu Ngoma, magistrat à la cour militaire du Nord Kivu, a annoncé ces arrestations. Selon lui, il y a 4 présumés auteurs moraux et 3 présumés auteurs matériels, c'est-à-dire des personnes qui avaient tiré sur l'épidémiologiste camerounais aux cliniques universitaires catholiques du Graben à Butembo. Les centres de traitement d'Ebola de Katwa puis de Butembo ont été attaqués fin février et début mars. Au moins un policier a été tué à Butembo. Mercredi, des dizaines de médecins et infirmiers en blouse blanche ont manifesté contre l'insécurité à Butembo, où s'est déplacé l'épicentre de l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola. Les personnels soignants ont donné aux autorités une semaine pour assurer leur sécurité et menacent, le cas échéant, de décréter une grève sèche la première semaine du mois de mai. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, il y a eu 885 décès, dont 819 cas confirmés et 66 probables. C'est la plus grave des 10 épidémies d'Ebola enregistrées sur le sol congolais depuis 1976.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Corée du Nord a demandé 2 millions de dollars à Washington pour les soins fournis à l'étudiant américain Otto Weinbier, détenu à Pyongyang en 2016, rapatrié dans le coma aux États-Unis plus d'un an après et mort peu après son retour. C'est ce que révèle le Washington Post selon les sources citées par le grand quotidien américain. L'émissaire envoyé en Corée du Nord pour ramener Weinbier a signé une promesse de paiement selon des instructions du président Donald Trump. La facture est allée au département du Trésor, mais on ne sait pas si elle a été en fait payée. Interrogée à ce sujet, la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a déclaré « Nous ne faisons pas de commentaires dans les cas de prise d'otages, c'est pourquoi elles ont été couronnées de succès sous cette administration ».
Pendant ce temps, à Vladivostok, en Russie, le leader nord-coréen Kim Jong-un a confié au président russe Vladimir Poutine que les États-Unis avaient été de mauvaise foi lors du sommet Kim-Trump de Hanoï en février. C'est ce que rapporte aujourd'hui l'agence d'État nord-coréenne.
Et puis, l'émissaire des États-Unis pour l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a exprimé ses regrets après la publication d'un rapport de l'ONU montrant que les forces américaines et afghanes ont tué plus de civils que les talibans et autres insurgés. Le point avec Abdulrahman Dia.
Nous regrettons profondément toute perte de vie innocente durant les opérations militaires. Nous ne prenons jamais les innocents pour cible, a tweeté hier Zalmay Khalilzad, qui doit reprendre les négociations de paix avec les talibans. Selon un rapport de l'ONU publié mercredi, pour la première fois depuis 2001, les forces internationales et pro-gouvernementales ont été responsables de la mort de 305 civils au premier trimestre 2019 contre 227 civils tués par les talibans et d'autres groupes armés. La mission de l'OTAN en Afghanistan, Resolute Support, a dit se tenir aux normes les plus élevées en matière d'exactitude et de responsabilité, selon son porte-parole, le colonel Dave Butler. Le président américain Donald Trump souhaite trouver une solution négociée pour retirer les forces américaines de l'Afghanistan de la guerre la plus longue jamais menée par les États-Unis.
L'administration Trump a décidé d'activer à partir du 2 mai une loi qui permet des poursuites contre des entreprises étrangères investissant à Cuba, ce qui a suscité la colère des autorités de la Havane, Irénée Hermanongbo.
L'objectif est d'artificier l'économie et de punir le peuple cubain avec comme finalité d'arracher des concessions politiques à notre gouvernement, a déclaré le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez. Malgré l'impact économique évident que le comportement américain et ses mesures auront, ils ne pourront faire bouger la ferme détermination à résister de Cuba, rassure-t-il. Washington, qui accuse le gouvernement cubain de soutenir militairement Nicolas Maduro au Venezuela, a multiplié et les mises en garde et sanctions. Outre les restrictions aux envois d'argent vers Cuba, Washington a aussi réduit la validité des visas pour les Cubains souhaitant se rendre aux États-Unis. Ces mesures porteront un grave préjudice au secteur privé de l'économie cubaine, a dénoncé le ministre Rodriguez, qui a appelé la communauté internationale à freiner la folie et l'irresponsabilité du gouvernement Trump.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
En Algérie, la société publique du pétrole Sonatrach a décidé de ne pas renouveler son accord d'échange de brut contre des produits pétroliers avec le négociant suisse Vitol. L'accord arrivera à expiration à la fin de ce mois. L'agence Reuters rapporte que cette décision intervient alors que la raffinerie pétrolière que Sonatrach a rachetée auprès d'Exxon l'année dernière revient de 45 jours de maintenance. Avec une capacité de production de 175 000 barils par jour, cette raffinerie réduira les importations de carburant en Algérie, notamment l'essence et le gasoil. Au Ghana, le géant minier Newmont Goldcorp indique que le projet d'extension de l'usine de sa mine Afo entrera en production avant la fin de cette année pour un investissement compris entre 35 et 45 millions de dollars. L'agence Ecofin publie que cela devrait augmenter la production de la mine Afo d'environ 75 000 à 100 000 onces d'or par an sur les 5 prochaines années à compter de 2020. Cette extension et le projet sous train Subika récemment achevé vont accroître la production globale de Newmont de 550 000 à 650 000 onces par an au cours de la même période. Pour terminer, aujourd'hui, pour la première fois depuis fin octobre, le baril de Brent a dépassé les 75 dollars, culminant à 75,35 dollars à Londres, soit une hausse de 78 cents par rapport à la clôture d'hier.
Les sports à présent avec Yacouba Ouidraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Sadio Mané est dans l'équipe de l'année en Première Ligue.
Oui, déjà nominé pour le titre de meilleur joueur du championnat anglais, l'ailier sénégalais de Liverpool est le seul joueur africain à figurer dans cette équipe type où on retrouve trois autres joueurs des Reds, les latéraux Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold et le défenseur Virgil van Dijk. Manchester City se taille à la part du Lyon avec 6 des 11 joueurs, le gardien Ederson, le défenseur Emerick Laporte, les milieux de terrain Bernardo Silva et Fernandinho et les attaquants Sergio Aguero et Raheem Sterling. Paul Pogba de Man U complète cette équipe type formée par le syndicat des joueurs professionnels anglais. Parmi les grandes absences, on note celle de la star égyptienne Mohamed Salah, sacré l'année dernière et qui a marqué 19 buts en Première Ligue cette saison.
La CAN 2019 en Égypte se jouera sous état d'urgence.
Oui, l'état d'urgence instauré en Égypte en avril 2017 pour des raisons d'insécurité vient d'être prolongé de 3 mois, ce qui couvrira la période de la CAN 2019. L'état d'urgence a été imposé pour la première fois par le président égyptien il y a 2 ans suite à 2 attentats meurtriers qui avaient fait 47 morts et 120 blessés dans des églises à Gorbia et Alexandrie.
Un joueur burundais meurt sur le terrain à moins de 2 mois de la CAN.
Oui, malheureusement, l'international burundais Papi Fati, 28 ans, est décédé sur la pelouse en Iswati. C'était à la faveur d'un match de championnat entre son club Malanti Chief et Green Mamba, non loin de Mbamban. Papi Fati souffrait de problèmes cardiaque et s'est effondré sur la pelouse 15 minutes après son entrée sur l'aire de jeu. Il a été transporté à l'hôpital où il a malheureusement été déclaré mort. Dans une interview accordée mercredi, il avait pourtant affirmé que son médecin avait prévenu qu'il pourrait mourir s'il continuait à jouer au foot. Papi Fati a récemment contribué à qualifier son pays, le Burundi, pour la première CAN de son histoire.
Athlétisme, Fanny Kerk, forfait pour les championnats d'Afrique du Sud.
Oui, le Sud-Africain, champion olympique du 400 mètres, récemment revenu d'une sérieuse blessure à un genou, a préféré jouer la prudence et a déclaré forfait pour les championnats d'Afrique du Sud d'athlétisme. Van Niekerk, 26 ans, avait été victime d'une rupture des ligaments croisés lors d'un match de gala de Townsh Rugby en octobre 2017. Son programme de rééducation a inclus des séjours ici aux États-Unis, au Qatar et dans son pays. Début février, il a remporté un 400 mètres aux championnats provinciaux à Bloemfontein. C'était sa première course depuis son titre mondial du 400 mètres et sa médaille d'argent sur 200 mètres en 2017 à Londres. NBA, pour finir, Idrissa, la nuit dernière, Denver était opposé à San Antonio dans ce premier tour des playoffs.
Oui, les deux équipes sont maintenant à égalité, 3 victoires partout, après la victoire des Spurs sur les Denver Nuggets, 120 à 103.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, l'idée d'une nouvelle constitution proposée et défendue par le parti au pouvoir fait débat dans le pays. La société civile et l'opposition guinéenne soupçonnent des manœuvres visant à donner la possibilité au président Alpha Condé de briguer en troisième mandat. Les deux entités se sont organisées au sein du Front National pour la Défense de la Constitution. Reportage à Conakry de Zakaria Camara.
Le siège du Front National pour la défense des acquis démocratiques. Plusieurs dizaines de femmes, toutes vêtues de rouge, sont venues exprimer leur opposition à toute modification de la Constitution.
Le président de la République a été élu à partir de cette Constitution. Aujourd'hui, nous ne voyons aucune situation qui amène à soumettre une nouvelle Constitution au peuple de Guinée. Ce qui veut dire que toute personne qui va se hasarder dans ce domaine est constituée comme un putschiste. C'est un coup d'État.
Les organisations de la société civile guinéenne n'entendent pas baisser les bras. Elles se disent prêtes à mener les actions contre toute initiative qui viole les lois guinéennes. Selon Abdourahmane Sano, membre du Front, le président Condé n'a aucune alternative.
Nous ne voulons pas que notre pays soit pris en otage par un système ou en tout cas une clique qui voudrait amener le président à s'éterniser au pouvoir en violation des règles du jeu de base comme la Constitution. On ne veut pas. Et c'est pour ça que nous avons pensé initier ce mouvement pour nous opposer à toutes les initiatives allant dans ce sens.
Les pro et anti-nouvelles constitutions sont actifs sur le terrain. Chacun y va de son argument. Les promoteurs d'une nouvelle république, eux, parlent d'une nécessité. Al-Hussein Makanira Kake, membre de RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir.
La première démarche, c'est de convaincre la population de la nécessité de l'adoption d'une nouvelle constitution parce que celle-là ne favorise ni les libertés démocratiques, ni le développement économique et elle n'est même pas le reflet de la volonté du peuple de Guinée. Deuxièmement, la seconde phase, c'est de faire en sorte que les préoccupations de toutes les couches sociales soient prises en compte dans la nouvelle constitution. Ça, ce sera la seconde phase.
L'opposition guinéenne a fait savoir qu'elle ne permettrait aucune modification ou adoption d'une nouvelle constitution. Pour elle, le président Condé veut être candidat à sa propre succession. Ahmed Tidjane Silla, responsable de la cellule de communication de l'UFR, parti de l'ancien Premier ministre Sidi Touré.
Ce qu'il faut retenir, qu'on parle de nouvelle constitution, qu'on parle de révision constitutionnelle, qu'on parle de glissement, tout ceci ne vise qu'un seul objectif, accorder un troisième mandat à Alpha Condé. Donc il n'est pas question, nous sommes là pour défendre la constitution et on va le faire.
Selon les membres du Front National pour la défense des acquis démocratiques, les déclarations du président Alpha Condé donnent plus de lumière sur ses intentions. Il y a quelques jours, le chef de l'État guinéen avait dit que personne ne peut l'empêcher de consulter le peuple. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
En République centrafricaine, c'est la polémique autour de la nature de l'accord conclu en février dernier entre le gouvernement et les groupes armés. Le procureur général de Bangui estime que cet accord est, et je cite, « au-dessus de la constitution centrafricaine ». Ces propos ont suscité une vague d'indignation à travers le pays. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
Dans la foulée de l'arrestation de Paul Cresson Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile qui a appelé à une manifestation pacifique le 15 avril dernier contre la nomination des chefs de guerre étrangers à des hautes fonctions de l'État et le manque d'eau potable à Bangui, le procureur général Eric Didier Tambo fait une déclaration surprise. Il qualifie de supranational l'accord de Khartoum conclu entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés du pays le 6 février dernier.
L'accord de Khartoum est au de la constitution, c'est-à-dire c'est supranational. C'est un accord politique dans ce cadre-là que le gouvernement a pu comprendre qu'il fallait amener les chefs rebelles dans le gouvernement. C'est-à-dire quand vous signez des accords internationaux, ces accords-là priment sur vos textes.
Cette déclaration a provoqué une vague d'indignation à travers le pays. Hommes politiques, membres de la société civile, internautes, tous montent au créneau. Ils dénoncent une déclaration irresponsable. Syriac Gonda, président du Parti national national pour un centre Afrique nouveau, PNCN.
Le droit totalement éventré pour moi, un juriste, hein, qui suis publiciste, internationaliste, pratiquant du droit international, je pense que aller affirmer que l'accord de Khartoum est déçu de la loi fondamentale à la constitution de notre pays, c'est grave, c'est antidoctrinaire. La doctrine du droit ne permet pas. Il n'y a que les traités qui sont au-dessus de la constitution, parce que ces traités tirent leur source de la convention de Vienne de 1969.
Le terme supranational continue de faire le buzz sur les réseaux sociaux en Centrafrique. Même pour dire bonjour, les internautes se plaisent à dire supra bonjour. Le chef de file de l'opposition, Anissé Georges Doleguélé, dénonce lui des ordres donnés aux magistrats pour les manipuler.
Bon, je vois pas très bien le lien. Il est procureur général. Nous attendons tous à ce qu'il nous rende justice. L'accord de Khartoum est politique. On est dans le domaine politique. Je dénonce les ordres qu'on donne aux magistrats pour les manipuler, pour les soumettre, pour les amener à faire des choses que quelquefois ils n'ont pas envie de faire.
Paul Cresson Beninga, le porte-parole du groupe de travail de la société civile, arrêté et libéré dimanche dernier après 3 jours de détention, fustige les propos du procureur général.
L'arrestation ne peut pas me dissuader, ne peut pas dissuader le GTSI. L'arrestation ne peut pas nous amener à reculer. La peur ne modifie pas la position du danger. Une fois de plus, vous comprenez que le parquet général est au service de la police.
Pour le moment, le gouvernement n'a pas encore officiellement réagi à cette polémique qui continue d'alimenter les débats. Freeman Sipila Bongi pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Gabon, la Caisse nationale de sécurité sociale est secouée par des problèmes financiers. Pour faire face à la crise, l'institution a décidé de reconsidérer son mode de paiement des pensions, provoquant la colère des 20 000 à 30 000 retraités du pays. La CNSS peine à faire le recouvrement de ses cotisations. Reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Le retour à l'ancien régime de paiement des pensions fâche les retraités gabonais. Selon la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, l'option de la trimestrialisation des allocations s'impose, sinon l'institution court droit vers la faillite. Docteur Nicole Asselé, directrice générale de la CNSS.
Les actifs actuels, ils ont diminué parce que la crise économique, moins d'assurés, moins de sociétés, beaucoup de sociétés qui ferment. C'est tout un cercle vicieux. Elles disent la dette intérieure n'est pas payée. Et comme la dette intérieure n'est pas payée, elles aussi elles ne peuvent pas payer. Donc on se retrouve avec plus de 153 milliards qui n'arrivent pas à rentrer.
Pas assez comme explication pour persuader les pensionnés venus ce jour par dizaines crier leur colère devant les locaux de la Caisse de sécurité sociale. Edouard Nguema, porte-parole du collectif des retraités.
Ce n'est pas un problème de contexte économique. Le véritable problème de la CNSS aujourd'hui, c'est la gouvernance, c'est la gestion scabreuse de la direction générale de la CNSS. La CNSS a suffisamment d'argent.
Dans sa ligne de défense, la direction générale de la CNSS apporte des précisions sur le processus de traitement des dossiers. Patrick Ossi-Okori est chargé d'études à la direction générale de la CNSS.
Nos pères et nos mères qui sont dans l'incapacité de se déplacer pour venir payer pour des raisons médicales, nous allons chez eux payer à domicile et ça se fait de façon trimestrielle. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Tous ceux qui sont payés à l'étranger sont toujours au trimestre. C'est le dispositif légal. L'ancien directeur général, M. Lassegué, a pris la décision de ramener les pensions mensuellement parce que le contexte économique qui prévalait à cette époque était favorable. Vous savez, entre 2014, nous sommes en 2019, le contexte économique s'est considérablement dégradé.
Malgré tout, les retraités restent sur le principe de la mensualisation des pensions. Edouard Nguema, leur porte-parole.
Aujourd'hui, selon la CIPRES, les entreprises de moins de 20 salariés devraient payer leurs cotisations trimestriellement. Plus de 20 salariés, c'est mensuellement. On préfère qu'on mensualise le paiement de cotisations que d'attendre le trimestre.
Trimestrialisation ou mensualisation des pensions retraite au Gabon, aux législateurs de trancher. Libreville, Ismaël Obianze, VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Calvin Fowler. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington, bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.